France Inter.
L'invité au carré aujourd'hui.
Sana Seitouli, cofondatrice de Banlieue Climat et militante écologie populaire.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Jusqu'au décès de mon père, le monde de mon enfance se dessinait assez simplement. Il s'étendait sur les 10 hectares du quartier de la Croix-Petit et des Chênes d'Or, à Cergy. Là, mes points de repère, le local, le collectif, résidentiel, où mon père dirigeait la prière du vendredi après-midi. Le maillon où nous allions faire les courses pour ma mère, la bibliothèque et le centre social où nous passions beaucoup de notre temps libre avec mes copines. Les grandes pelouses vides desséchées, où nous jouions entre voisins, à la corde à sauter, au chat ou à la balle aux prisonniers. Et bien sûr, installée au centre du quartier, l'école de la Croix-Petit, le phare de ma vie d'enfant. Elle est ma deuxième maison, après le salon du F3 familial, avec son grand canapé d'angle blanc, rempli de coussins coloré comme au Maroc et sa bibliothèque pleine des livres érudits emportés par mon père dans son exil. Cette pièce est mon cocon. Il y passe chaque jour des visiteurs, des Mauritaniens de la diaspora venus demander à mon père un conseil médical ou spirituel, des amis avec lesquels mes parents jouent à la belote, des voisines venues prendre le thé. Jamais ce lieu n'a été silencieux. Notre salon est métissé, à l'image du couple dont je suis née le 2 février 1982.
Bonjour Sana Seitouli.
Bonjour.
Ces lignes que vous venez de nous lire, vous les avez écrites dans ce livre qui s'appelle Enraciné, que vous publiez aux Presses de la Cité, sous-titré pour une écologie populaire avec banlieue climat. Le décor de votre vie est donc planté dans cette banlieue du Val d'Oise. Quand vous repensez justement à votre enfance à la Croix-Petit, qu'est-ce qui a été l'étincelle fondatrice de votre engagement ?
Spontanément, comme ça, je vous dirais un peu l'héritage de mon père, qui était quelqu'un de très engagé. Je l'ai toujours vu agir, s'investir avec l'amicale des Mauritaniens en France très tôt, et c'est ce que je raconte dès le premier chapitre dans mon livre. Et cette transmission a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et puis au fur et à mesure de mon parcours, de notre vie de quartier, des difficultés, et puis l'observation des inégalités sociales dans laquelle nous étions à cette époque-là, l'engagement est devenu naturel et primordial dans
Donc
mon parcours.
Donc votre père réfugié politique mauritanien, c'est ça, et qui occupe une place très centrale dans votre récit, il a vraiment une influence majeure dans votre vie ?
Oui, complètement. Déjà, il a été un papa extraordinaire. Les souvenirs et le souvenir que je garde et que j'essaie de transmettre, c'est vraiment cette envie d'aimer les gens, d'aimer communiquer, parler, de rassembler, de réunir. Donc il y avait vraiment cette envie de rassembler au quotidien, à la maison, à l'extérieur. Il était connu à la maison de quartier. Il avait à cœur de transmettre ses coutumes, les traditions, d'embellir le salon par les odeurs d'encens, de thé, etc.
Et il y avait du monde qui passait, visiblement.
Il y avait beaucoup de monde qui passait. Et souvenir où à chaque fois qu'on voyait des gens, Monsieur Seitouli, il habite juste ici, donc les gens venaient spontanément. C'était un vrai bonheur.
Donc c'était très animé. Et puis famille aussi nombreuse. Vous avez combien de frères et sœurs ?
Cinq frères et sœurs.
Cinq frères et sœurs. Ouais. Et vous dites, nous sommes comme les cinq doigts de la main.
C'est ça.
Et vous êtes, vous, le majeur, le
Exactement.
Doigt le plus grand.
Le plus grand.
C'est comme ça que vous présentez.
Comme ça.
Pourquoi ?
Le plus grand, mais c'était drôle comme image d'être le majeur. Mais effectivement, entre ma grande sœur et mon grand frère, qui sont vraiment mes aînés. Et qui en ont la place et que je respecte beaucoup, et puis avec mon petit frère, ma petite sœur. Mais j'ai toujours été un peu cette personne un peu différente et vraiment avec un profil qui ressemblait beaucoup à ce qu'incarnait mon papa, et peut-être qui faisait de moi un peu cette grandeur de femme engagée que je suis devenue aujourd'hui.
En mai 2004, à l'âge de 22 ans, c'est la première scène d'ailleurs de votre livre, vous prenez l'avion pour la Mauritanie avec dans la soute le cercueil de votre père que vous allez enterrer. Quel souvenir vous gardez de ce voyage avec votre grand frère Amadou ?
Alors c'était un moment qui était très douloureux et avec de la peur, de crainte, mais aussi beaucoup de curiosité, d'amour. J'avais tellement vécu une vie et une image un peu édulcorée des traditions et de ce que pouvait être mon pays, la Mauritanie, qui nous avait été transmis par notre papa. Et en partant justement pour les funérailles en Mauritanie, ça a été un voyage de découverte. Voyage en terre inconnue et en arrivant là-bas, tout s'est entremêlé. J'ai pu découvrir réellement les visages de ma famille, des gens. J'ai vu des gens qui me ressemblaient vraiment. J'ai su qui j'étais. J'ai revu pas mal d'odeurs, de parfums de rue et puis de choses, d'histoires que mon papa nous racontait assez régulièrement.
C'est la première fois que vous alliez sur place,
hein? Et c'est la première fois que j'y allais sur place. Et après, c'était le début d'une très grande histoire.
Ouais, parce que vous dites à quel point justement ce voyage vous a transformé en lien avec vos racines précisément.
Complètement. Il m'a transformée parce que j'y ai pu voir un peu l'impact de l'histoire familiale. Et j'en parle dans le livre de mon ethnie, les Jacani, les savants, en fait, cette lignée qui est très noble. Et moi, j'arrive avec mon histoire, le Sana de la Croix-Petit. Je raconte aussi, enfin, j'explique mon deuxième prénom, Inimiche, oui. Qui du coup a pris tout son sens. Et effectivement, quand je passe... maintenant, de manière très fière, Sana Inimiche Saïtouli, c'est vraiment ce que j'incarne aujourd'hui. Cette personne qui est alignée et qui est clairement enracinée aujourd'hui.
C'est ça, d'où le titre de votre livre, en fait. C'est directement lié, en fait, à ce premier voyage en Mauritanie.
Complètement.
Ouais.
Je le dis maintenant, il a fallu un temps de travail, et je pense que ce premier livre m'a permis, en tout cas, de réparer ça, et du coup, de l'installer. Et effectivement, en rentrant de la Mauritanie... je me suis rendu compte que j'étais enracinée.
Et ça élargit beaucoup les choses, parce qu'il y a vos deux prénoms, effectivement, qui tout d'un coup ouvrent les possibles. Hein.
Ouvrent les possibles, et puis avec un alignement, et puis aussi avec doté d'une mission. Un héritage que je ne peux pas mettre de côté, et du coup ça m'a redonné une énergie, et du coup il y aura un avant 2004 et un après, et le après m'a permis justement de renforcer mes combats, mes engagements, de maintenir justement ce qui m'a été transmis, c'est-à-dire le combat, le collectif, et de faire vivre un peu les valeurs que mon père m'a transmis.
Et vous parlez d'une mission, Sana Saïtouli,
oui.
C'est quoi cette mission?
Cette mission de continuer d'agir pour faire en sorte que toutes celles et ceux qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, puissent vivre dans la dignité. Et je sais que c'était vraiment ce que mon père avait à cœur d'essayer de faire et de faire à son niveau avec les moyens qu'il avait. Et cette mission, je crois que j'essaie de la porter du mieux que je peux. Et puis avec cette nouvelle génération aujourd'hui, où je transmets et puis je co-construis des nouvelles choses, c'est vraiment une fissure d'espoir pour moi.
Évidemment, puisque c'est une écologie populaire que vous défendez avec Banlieue Climat, c'est le sous-titre de votre livre. Retour donc après ce voyage en Mauritanie à Cergy, ville nouvelle. On va d'ailleurs écouter une archive de l'INA de 1977 au sujet de cette ville où vous avez grandi.
Cergy-Pontoise, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Paris, est l'une des cinq villes nouvelles de la région parisienne. Les tours grande hauteur ont été bannies. La ville se divise en quartiers comprenant des collectifs, mais aussi et surtout des individuels. Ce sont précisément les logements individuels qui ont le plus de succès. Les transports bien organisés, un environnement vert très agréable, des commodités commerciales, des loisirs complets, des emplois sur place possibles, une vie de quartier agréable.
Alors, vous n'étiez pas né en 1977, Sana Saïtouli, mais est-ce que vous reconnaissez dans ce portrait décrit de votre ville, là, du Val-d'Oise ?
Oui, je la reconnais parce que mon père était là à ce moment-là, et effectivement, c'est ce qu'il nous racontait. Mais elle est tout autre aujourd'hui.
Oui, elle a beaucoup changé, il y a eu beaucoup de réhabilitation.
Il y a eu beaucoup de réhabilitation.
D'immeubles qui sont tombés, d'autres qui ont été reconstruits.
Dans notre quartier, la Croix-Petit, et puis toute une transformation. Cergy reste aujourd'hui une ville très attractive, avec un campus universitaire très important. Plus de 35 000, même encore un peu plus. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais effectivement aujourd'hui, Cergy, avec plus de 147 nationalités, une ville... pleine de sa diversité et avec des talents, avec des associations, un tissu associatif incroyable. J'ai toujours à cœur de rentrer chez moi le soir à Cergy.
Vous racontez que votre scolarité est traversée par un fort sentiment d'injustice. Oui. Qu'est-ce qui s'est joué pour vous, justement, autour de ça ?
Ce qui s'est joué à cette période-là, et je ne le disais pas forcément, c'était un peu... je fais partie un peu de cette génération orientation subie, où de par ce que tu pouvais être ou incarner, et de part aussi la réalité des outils qu'on n'avait pas forcément sur l'accompagnement à la scolarité, en dehors de l'école, etc.
Donc ça a donné quoi concrètement ?
Ça a donné une élève qui était relativement motivée, avec des difficultés, mais du coup qui n'avait pas forcément les moyens d'exceller. Et du coup, malgré tout ce que je pouvais faire, j'allais faire de l'aide aux devoirs à la maison de quartier, ou encore avec mes parents qui essayaient de m'aider, etc. Mais effectivement, tout n'était pas, j'avais pas tous les ingrédients pour justement arriver vers ce qu'on appelle aujourd'hui la réussite éducative, ce qui a été un grand combat, en tout cas personnel et collectif, et aujourd'hui moi en tant que maman.
Donc on vous a orienté vers un BEP, comme on a fait avec beaucoup de gens.
Exactement. Et puis du coup, comme j'étais cette fille qui était très dans la communication, très investie, toujours déléguée, qui avait toujours envie de parler, et puis qui participait aux ventes de gâteaux croissants à l'école pour justement faire en sorte que les voyages soient accessibles aux élèves et que ça soit gratuit pour qu'on y participe tous. Du coup, j'avais un peu genre cette fibre commerciale, et j'ai le souvenir que des professeurs allaient me convaincre, en me disaient, mais si tu vois, Sana, tu vois, t'arrives à tout vendre d'un coup. Donc, et moi, en fait, j'étais contente en fait, qu'on me dise ça, parce que c'était des compliments, etc. Mais en vrai, c'est une dinguerie. Enfin, des années après, je me dis... Et tout de suite, ce qui m'a, au fur et à mesure, justement, de mon orientation, etc., j'avais en tête que je voulais faire du social. Et j'y suis arrivée en travaillant sur le terrain, en étant animatrice sociale, ouais, en récupérant toujours. Donc moi, j'ai toujours eu...
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
Parce à
15 ans, vous créez une commission jeune, c'est ça ?
Exactement. La première commission jeune, alors la commission jeune, c'était avec 5 copines, hein, Fatima, Razika, Aïcha, c'était la team des A. D'ailleurs, je leur rends hommage parce que c'était nos super années. Et à cette époque-là, on avait juste envie que les filles du quartier puissent bénéficier des mêmes activités que les garçons. Alors du coup, les institutions en fait, autour, en fait, il y avait tout pour les gars. Et du coup, nous, on se retrouvait parce qu'on ne faisait pas forcément trop de bêtises, etc. On devait juste se contenter d'aller à la bibliothèque. Et il n'y avait pas grand-chose, et ça a été le démarrage de notre engagement. Et puis on en a mis en place plein d'actions, on a organisé la première soirée orientale au profit des Restos du Cœur, c'était incroyable, et à ce moment-là, et puis après notre engagement s'est lancé avec les filles, c'était trop bien.
Sana Sektouli, on n'a pas évoqué votre mère, parce que ce sont vos racines marocaines aussi, et c'est aussi un pilier fort quand même dans votre parcours.
C'est une grande dame, Dieu merci, elle est toujours là à mes côtés. Elle a toujours été soutenante dans l'ombre. Elle a toujours été celle qui soutenait mon père. Et moi aujourd'hui, à chaque action, à chaque intervention, elle doit m'écouter encore là actuellement. elle revit des moments forts que mon père pouvait porter. Donc elle en est fière. Donc il y a un côté un peu incarnation, réincarnation de mon père. Et il n'y a pas un jour où elle me dit pas, c'est pas possible, tu me rappelles ton père, dans mes actes, dans ma façon de faire, dans le fait de transmettre, de donner, de partager, et puis même la sensibilité, puis c'est aussi cet attachement à la politique, de toujours vouloir être au courant de ce qui se passe. Donc oui, ma mère a une très très grande place.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Celui qui laisse son troupeau en divagation pour se nourrir de façon libre sur tout ce qui pousse sur le sol, commet un acte criminel de destruction de la nature et de condamnation des générations à venir. Il sera interdit de couper le bois. Et ce n'est qu'à cette condition que le Burkina Faso sera vert aujourd'hui et surtout encore plus vert demain pour les générations à venir.
Une archive de la télévision du Burkina en 1985, c'était la voix du capitaine Thomas Sankara qui déclinait donc sa vision de l'environnement pour le Burkina Faso. Sana Sektouli, vous êtes notre invitée cet après-midi pour la sortie de votre livre Enraciné pour une écologie populaire avec banlieue climat, c'est aux presses de la cité. Sankara, c'est une figure qui compte aussi dans votre parcours ?
Ah, complètement, c'est un visionnaire, c'est je pense quelqu'un qui manque beaucoup à l'humanité, et quand on voit ce qu'il a pu faire à l'époque de la Haute Volta du Burkina Faso, c'est vraiment une figure, et puis une telle figure que j'en ai épousé l'un de ses descendants, donc un franco-burkinabé très engagé, et qui m'a permis encore de découvrir encore plus d'actions, notamment sur la question des femmes au Burkina Faso.
Ouais. Donc vous êtes un couple d'engagés, c'est ça aussi ?
On est un couple d'engagés, oui. Ah ouais, c'est, on nous appelle le couple Gaulle.
Le couple Gaulle mais c'est,
qu'est-ce que ça du veut monde dire de l'engagement. Bah, je sais pas, apparemment, il y a pas mal de jeunes filles et des jeunes qui s'identifient, en tout cas, dans le monde de l'engagement. Et c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est quoi cette recette ? On peut être une maman, une femme, se marier, faire des enfants et être engagée. Et aujourd'hui, ouais, avec mon mari Patrice, on a 3 enfants, 3 magnifiques petites filles, très investies, engagées, et on continue d'agir.
Et vous êtes toujours à Cergy ou pas ?
Et on est toujours à Cergy.
Ouais. Mais vous êtes dans le même quartier ou pas ?
On n'est pas dans le même quartier. On est à 10 minutes du quartier, mais ma mère est toujours dans le même quartier.
Ouais.
Toujours.
Et pourquoi vous avez changé de quartier ?
Bah parce que je me suis embourgeoisée, en fait.
Mais on peut le dire, vous avez le droit.
Non, mais parce que c'est une très bonne question, en fait. C'est parce qu'il fallait déménager de quartier, parce qu'on l'avait détruit, et puis il fallait partir du quartier. Mm-hmm. Et c'est vrai que lorsque je me suis installée avec mon mari, bah, du coup, on a été dans un nouveau quartier à Cergy-le-Haut, qui était en plein développement, etc. Et c'était aussi important de pouvoir raconter, se réapproprier aussi son territoire, de découvrir un lieu où on n'y allait pas forcément, parce que pour nous, c'était que les gens privilégiés qui pouvaient s'y rendre. Et pourtant, aujourd'hui, on se rend compte que bah, tout Cergy, en fait, ça appartient à tout le monde. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir y faire grandir mes enfants. Et ouais, c'est une nouvelle vie pour moi.
Mais vous pourriez faire grandir vos enfants dans votre quartier d'enfance ?
Ah, mais complètement. Ouais. Complètement. D'ailleurs, comme ma mère et ma belle-mère aussi y sont installées, toutes les semaines, elles viennent jouer au quartier, on va chez ma mère, et ça fait partie intégrante de ma vie, quoi. Elles connaissent tout, c'est la croix petit.
Comment l'écologie est entrée alors dans votre vie, Sanassaï Touli, exactement, pour comprendre là aussi le fil du récit ?
Alors moi, du coup, j'ai envie de te dire que c'était très naturel et que c'était en nous, c'était en moi, et qu'on a à cœur de dire que les premiers écologistes, ce sont nos parents, de par leur histoire, de par leur ancrage, la sobriété, tout ça, on l'a vécu depuis toujours. Et c'est vrai que quand tu grandis dans un quartier, bah tu vois tout ce qui va, ce qui ne va pas, les logements insalubres. On a mis, nous, avec notre association Agir pour réussir, pas mal d'actions éco-citoyennes à l'époque, et en fait on ne mesurait pas à quel point l'impact qu'on avait et à quel point c'était des actions écologiques, en fait.
Mais sans le savoir.
Sans le savoir, et parce qu'en fait on avait toujours cette image que les écologistes c'était une catégorie de personnes, de gens qui ne nous ressemblaient pas forcément.
C'est-à-dire, et donc, du c'est coup, intéressant, c'est quoi le profil justement
Des profils de gens qui viennent souvent de l'extérieur, qui ne viennent pas forcément de nos quartiers.
Des
blancs, CSP+, écolo, bobo, mais des gens très sympas, bienveillants, qui ne connaissent pas la vie de quartier, qui n'ont pas grandi dans des milieux populaires, mais du coup qui venaient toujours un peu nous éduquer, nous transmettre des choses, etc. Donc moi j'ai toujours senti de la bienveillance, mais en même temps en fait ils étaient tellement pas conscients de par moments de la violence qu'ils pouvaient nous transmettre. Moi il y a un truc peut-être qui s'est installé comme un trauma, c'était venir nous éduquer au tri des déchets et venir nous parler écologie tout de suite dans les quartiers, et en nous parlant des déchets, je trouvais ça tellement humiliant que ça nous renvoyait à des choses de pas correctes, et je m'étais juré que si demain on devait s'investir et s'engager, c'est seulement pas l'axe qu'on allait prendre. Et donc c'est pour ça que nous aujourd'hui avec Banlieue Climat, la question de la science, du savoir est par le haut, et qu'aujourd'hui nous dans les milieux populaires, tous ceux qui sont en train d'agir sur ces questions-là, c'est pas ceux qui renforcent les inégalités, c'est justement ceux qui vont nous permettre de trouver les solutions.
Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui pour vous d'ailleurs toujours au sein du mouvement écologiste en France ?
J'ai pas de problème en soi, parce que en vrai...
De toute façon, vous êtes autonomisé énormément,
on a notre structure, etc.
Mais quand même, votre regard porté.
Mais effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Je pense qu'il y a pas mal... Il y a un truc, en fait, qui s'est débloqué depuis la création de Banlieue Climat, et ce qu'on a réussi à faire. Mais je pense qu'il y a pas mal d'accompagnement. Il faut accompagner aussi pas mal de structures associatives, des formations à l'antiracisme et autres, parce qu'il y a peut-être des codes, il y a des mécanismes qui se sont installés dans ces mouvements, que du coup, ils ne comprennent pas pourquoi des fois ça marche pas ou ils embarquent pas et on n'arrive pas à s'y retrouver. Et nous, on est clairement disposés à accompagner aussi, à faire ce travail-là avec ces structures qui seraient prêtes à accueillir ce type et à l'accepter. De se dire, oui, en fait, nous, il y a des trucs qu'on fait, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire.
Donc ça veut dire qu'il y a toujours un racisme inconscient, selon vous ?
J'ai l'impression. Ouais. Je pense que indirectement, en tout cas, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on vit par moment, et mais qu'on peut lutter parce qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas reconnues, et je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de structures, et puis il y a des professionnels aujourd'hui qui agissent là-dessus, et il faut l'accepter pour pouvoir justement, et c'est ce qu'on propose nous au sein de notre école populaire.
Donc il y a encore du boulot, hein, finalement.
Il y a encore du boulot.
Entre tous ceux qui défendent
l'écologie. Mais il faut rester optimiste. Moi, je suis convaincue qu'on y arrivera, mais il faut vraiment que tout le monde reste ouvert et accepter aussi que des structures populaires puissent venir à leur tour, venir éduquer et transmettre des choses pour pouvoir s'en sortir ensemble.
Sana Saïtouli, vous utilisez l'expression écologie de la S. Je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, ça se dit
la
comme
S.
Ça.
De la S. Allez, voilà, la S. Voilà.
Comment ça se définit pour.
L'écologie de la Hesse, ouais. Bon, la Hesse, qu'il faut dire, c'est quand c'est la galère, c'est la dèche, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Mais et c'est vrai que j'en parle beaucoup et je fais un clin d'œil à mon amie Aya Diakité de l'association Révèle-toi à Grigny. Et on a toujours à cœur de se dire, mais en vrai, nous, c'est parce que nos parents n'avaient pas forcément les moyens, c'était la Hesse que du coup, les éco-gestes et tout était naturel. C'était, et c'est pour ça que...
C'est quoi, c'est la débrouille un peu,
c'est, non c'est un peu la débrouille et c'est surtout mais parce que, en fait, notre environnement... la précarité que pouvaient avoir dans les familles, dans les milieux populaires, et ben du coup, était installée. Et donc, de manière naturelle, les éco-gestes, la sobriété, tout ça, nous, c'était, on était en phase, on connaissait. Et aujourd'hui, bon, il y a des termes qui ont été installés, c'est très fun de dire, oh là là, les éco-gestes, seconde main, etc. Enfin, ça, nous, on a connu ça depuis la nuit des temps, et nos parents nous l'ont transmis. Et il y a un truc de, bon, on va rendre hommage à nos parents, parce que tout ça, ça vient de leur histoire, et c'est bien aussi de se réapproprier son histoire.
Il y a une rencontre, évidemment, qui a marqué aussi une nouvelle étape dans votre vie, c'est celle avec Fériz Barkat,
oui.
Et c'est l'occasion d'écouter celui qui va un peu devenir votre double, Sana Saïtouli.
Exactement. Hein,
on l'écoute.
Le combat, c'est juste empêcher la mise à mort des miens. Culturellement parlant, il y a un problème dans la manière dont on va voir la question des banlieusards, des jeunes de quartier. On va se dire, c'est pas un sujet fait pour eux. Alors, à partir de quel moment, toi, tu te dis, c'est pas un sujet fait pour eux? Donc là, il y a un mépris de classe, sauf que ce mépris de classe, il est internalisé. Ou même nous, on va se dire, c'est pas un sujet pour nous. Même on va dire, en vrai de vrai, ils sont complètement tartés ces gens-là, pourquoi ils nous parlent d'écologie tous les 4 matins? L'idée c'est de dire, il faut trahir ce qu'on attend de nous, et c'est pas parce qu'on pense qu'on va pas aller s'occuper de tel ou tel sujet qu'il faut rester là-dessus. Et je pense qu'il faut réussir à casser un peu cette image-là, parce que c'est la seule manière de montrer qu'on est plus que l'image qu'on a de nous.
Fériz Barkat au micro de la RTBF, Sana Saïtouli, qui prolonge d'ailleurs ce que vous venez de nous dire.
Hein.
Vous êtes bien aligné là aussi sur le discours. À quel moment vous vous croisez en fait pour la première fois?
Ah, la première fois déjà, on se connecte.
Parce que vous avez une différence d'âge importante
ouais.
Quand même. Hein.
Exactement.
Vous avez 20 ans d'écart?
On a 20 ans d'écart. Et lorsque moi je découvre Fériz, c'est sur TikTok. Et moi je suis dans une période de ma vie où je sors d'une séquence d'engagement où c'est un peu difficile. Et je me dis, purée, comment on va s'en sortir? Il y a un truc en moi où me dit j'ai besoin de second souffle, j'ai besoin de nouvelles choses. Et en découvrant TikTok, où je n'étais pas forcément, je suis pas une TikTokeuse quoi, et il me faisait beaucoup de bien à le regarder tout, ça me donnait beaucoup d'espoir. Et donc on m'a connecté avec lui, donc Abdelali me présente Fériz, et par téléphone, on discute des heures et des heures, et tout de suite il y a un truc de méta. Je ne pourrai jamais vous expliquer l'histoire que je peux avoir avec Fériz, mais tout de suite en fait on a accroché, et il traversait à ce moment-là une période très très difficile, douloureuse, la période où il perd sa maman, et donc du coup moi ça m'a renvoyé moi 20 ans avant, où j'étais dans le même état avec la perte de mon papa, et on s'était fait la promesse à ce moment-là, donc on est en 2022. 21-22, et on se fait la promesse de lutter et de faire en sorte de protéger toutes les mamans et tous les papas, et on va tout faire, on va tout donner, et on va essayer d'aller trouver des solutions, d'aller dans tous les quartiers, de proposer des actions, de vulgariser, et d'aller former des mamans, des papas, etc., ce qu'on a monté avec le collectif des mamans pour le climat, et aujourd'hui je suis tellement fière de ce qu'on a réussi à faire à deux.
Des mamans pour le climat,
oui.
Il fallait quand même avoir l'idée en fait.
Exactement.
C'est étonnant presque comme première intention.
Et vous saviez que cette première intention, c'était au départ ce qu'on voulait faire avant les jeunes, mais on s'était dit qu'on ne pouvait pas expérimenter sur des mamans. Donc on a commencé par les jeunes.
Ouais.
Et lorsqu'on a lancé le collectif des mamans pour le climat, parce que je sais qu'elles m'écoutent là et je leur envoie plein d'amour parce qu'elles sont juste extraordinaires. Et ben du coup, ça nous a permis d'aujourd'hui d'avoir plusieurs femmes aujourd'hui qui sont investies, qui sont prêtes à transmettre pour former aussi d'autres femmes sur les questions questions de transition écologique, sur la parentalité, et de pouvoir aujourd'hui être des figures à part entière et de pouvoir porter la voix de ces mamans qu'on ne voit pas, parce qu'on n'est pas juste des mamans. Et c'est ce que j'ai réussi aujourd'hui à transmettre en tant que maman et de voir aujourd'hui ce qu'on est en train de construire avec toutes ces mamans. On est soutenu par la CNAF qui nous accompagne là-dessus. On revient justement d'Amazonie avec elle.
De la COP 30. On en parlera. Enfin, c'est pas vraiment la COP 30 d'ailleurs.
Non, parce alors que... on a été avec Ferris à la COP 30 et juste après on a rejoint l'équipe pour un super projet. On a été au cœur des poumons de l'humanité avec des mamans, des jeunes et puis on a fait un périple à vélo. Enfin, j'ai tellement à vous raconter avec ce qu'on a fait.
On va en reparler. Il nous reste encore un petit peu de temps. Sana Saïtouli, banlieue climat d'ailleurs, c'est né à quel moment en fait? Parce que vous parlez de 2022 comme si c'était il y a hyper longtemps. Non. C'était il n'y a que 3 ans, mais il s'est passé tellement de choses.
Ouais, il s'est passé tellement de choses en 3 ans, et on pose souvent cette question, mais en 3 ans, vous avez fait tout ça, vous êtes pistonné par qui et tout. Non, c'est juste moi, ça fait plus de 20 ans que je suis engagée, et ce qu'on a cédé faire avec Abdelali, Sefiou, Ferris, etc., c'est quand on met dans un pot commun toutes nos compétences, nos expertises, puis avec cette nouvelle génération, l'énergie que Ferris a apportée, ça a permis justement de reconnaître, et enfin on est entendu, mais du coup ça nous a permis justement de reconnaître ces 20 ans d'engagement, et aujourd'hui on est en train de travailler, on est loin de nos objectifs, mais aujourd'hui, effectivement, en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées. Et ça, c'est la force du collectif.
Et c'est quoi votre grand objectif, alors? Votre grand rêve, si vous aviez la baguette magique, là, tout de suite?
Mais moi, si la baguette magique, c'est qu'on puisse justement faire en sorte que dans les milieux populaires, tous, hein, on puisse vivre tous vraiment égaux avec une justice sociale et environnementale équitable pour toutes et tous, que nos parents puissent retrouver leur dignité et que tous les enfants puissent aller à l'école et être orientés avec leur propre choix, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de femmes victimes de violences conjugales. Moi, si j'avais une baguette magique, j'aurais tellement de rêves à penser. Mais
est-ce qu'il faut faire de la politique pour ça, à votre avis, pour y parvenir? est-ce que c'est un outil ou
moi,
en tout cas
que, ouais, je pense
un passage obligé?
Je ne sais pas si c'est un passage obligé, mais en tout cas, pour être entendu, le fait d'être... d'être reconnu politiquement, en tout cas de porter la voix politiquement, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que c'est là où on change les choses, c'est là où on transforme les lois.
Vous n'êtes pas dans un parti?
On n'est pas dans un parti, dans aucun parti
vous
politique.
Vous êtes dans le parti de l'associatif,
De la société civile, des habitants, de celles et ceux qu'on n'entend pas. Et même si c'est difficile, aujourd'hui, on a un pouvoir d'agir qui est complètement différent, qui prend peut-être du temps, mais en tout cas, on a sûrement, parce que les partis politiques n'ont pas, on a plus d'impact et on le fait sincèrement.
Qu'est-ce qui est difficile, hein, d'y arriver financièrement, tout simplement?
Oui.
Matériellement?
Moi, je pense que, en partie, c'est vrai que la question maintenant que vous me parlez de la question budgétaire et financière, elle est très compliquée, parce qu'on n'a pas les financements de, on va dire, la hype. On entend parler de banlieue climat un peu partout, mais on est loin des financements qu'on peut nous allouer. Et aujourd'hui, des associations, et je suis pas là, et on n'est pas les seuls, hein. Et d'ailleurs, j'en fais un appel, hein, pour aujourd'hui, on le voit bien, toutes ces associations qui galèrent sur le terrain, qui font un travail incroyable, qui ont de l'impact. On voit bien aujourd'hui comment il est tellement difficile de faire confiance à ces associations. Au lieu de les soutenir et de leur donner les moyens d'agir, on retire le peu de financement qui existe et on les met limite sous tutelle. Et ça, c'est juste inacceptable. Et aujourd'hui, je pense que la question de l'accompagnement financier auprès des associations est primordiale.
Donc, toutes celles et ceux qui veulent vous aider financièrement sont les bienvenus, hein, concrètement.
Les bienvenus.
Parce que vous courez après les financements en permanence. Hein. En fait, vous me disiez, vous aviez seulement 2 ou 3 mois d'avance
on
à chaque fois.
On a 2 ou 3 mois d'avance pour nos salariés. Et aujourd'hui, on combat. Et puis aujourd'hui, on doit légitimer aussi notre capacité à gérer nos budgets. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, une association de jeunes qui viennent de quartiers sont capables de gérer financièrement une association comme Banlieue Climat? C'est un peu ce qu'on nous renvoie indirectement. Donc, ils sont agréablement surpris quand ils ont nos bilans et autres sur la gestion. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Mais aujourd'hui, notre combat, c'est comment aujourd'hui on arrive à faire reconnaître justement la reconnaissance de ces associations qui font un taf et qui gèrent bien leur structure.
France Inter. La Terre au carré.
En France, plus de 5 millions d'enfants ne partent pas en vacances. Dans les foyers à bas revenus, ça représente 56% des jeunes. Aujourd'hui, on est à Cergy avec l'association l'AGPR, voir les animateurs et les enfants qui ne partent pas en vacances.
C'est important de faire sortir les jeunes, parce que quand on est trop bloqué dans le même cocon, dans la même zone, on reste bloqué, alors qu'aller voir ailleurs, ça fait énormément de bien. Quand j'ai été grand, à mes 19 ans, repartir en vacances, ça m'a fait énormément de bien.
Pourquoi les jeunes ils partent pas en vacances? Un problème de pouvoir d'achat, je pense. Si tes parents ils ont pas les moyens, comment tu fais?
Notre cité, on reste à la justice, on est à l'école. À la justice en maternelle, en primaire, au collège. On n'est qu'à la justice enfermée. Et le fait de partir en vacances, je sais que ça fait respirer une autre air.
L'association Agir pour réussir, extrait du compte TikTok Bouscapé à l'instant. Sana Saïtouli, vous qui avez passé beaucoup de temps avec cette association.
14 ans.
À quel âge vous avez commencé?
J'ai commencé en 2007-2008 jusqu'en 2021. Et puis après, il y a eu la passation à cette nouvelle génération.
Oui, c'est ça. Et donc maintenant, Banlieue Climat, qui est votre nouveau projet.
Et maintenant,
projet.
Qui est la continuité. Mais tout ce qu'on a porté avec AGPR et toutes les actions qu'on a pu porter avec Aïssetou Camara, Nadir, Moussa et toute la team, c'était juste incroyable. Il n'y aurait pas eu de Banlieue Climat sans toute l'expérience, sans toute l'expertise que nous avons pu acquérir à échelle locale au sein de la Croix-Petit avec Agir pour réussir et qui est aujourd'hui encore une association qui agit avec une relève, avec Kylian, Aïmen, tous ces jeunes aujourd'hui qui reprennent, qui sont des petits du quartier, qui reprennent l'association et qui sont en train d'apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est ça aussi la transmission, c'est de permettre aussi à ces nouvelles générations de s'approprier et de pouvoir réinventer et raconter aussi leur histoire du quartier.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de la crise écologique, il y a justement une efficacité du terrain qui au moins donne des résultats très concrets tout de suite, rapidement, et qui finalement permet aussi à ces quartiers populaires d'incarner quelque chose de très puissant?
Oui, complètement. On le voit aujourd'hui avec tout ce que font les jeunes. Nous, on le voit dans le cadre des formations qu'on dispense dans les quartiers, et quand on a les formateurs qui décident de créer leur propre association à échelle locale.
Donc des formations, juste parenthèse, autour du climat toujours?
Autour du climat, ouais. Exactement. Donc en fait, il y a une formation de 8 heures et juste par la suite, il y a une formation de formateurs qui permet justement de former d'autres jeunes et surtout de travailler sur leur territoire et de voir comment ils peuvent développer. Je vais reprendre l'exemple un peu de l'association Pop Eco, des jeunes formateurs de Banlieue Climat, de Laval, qui aujourd'hui créent leur propre association à échelle locale pour pouvoir justement déployer et commencer à agir localement. Ils sont en train de travailler sur une ferme urbaine en partenariat avec la municipalité et c'est comment aujourd'hui ils ont été outillés, ils ont récupéré un peu toutes ces données pour aller agir localement et s'investir à leur tour. Et après il y a toutes ces associations qui agissent et qui sont connues et reconnues, je pense à la NVB au Mureau, je pense à l'association ACESU, une association de Maïmouna Tala au Mureau qui fait un travail exceptionnel, ou encore Kumbassar avec l'association Boost ton énergie qui aujourd'hui sur le terrain font un travail exceptionnel sur la question écologique parentale sur le terrain.
Ouais, donc tout ça, ça évidemment fait des petits, hein, parce que on parlait de Cergy Pontoise, c'était un peu le cœur du réacteur au départ, mais avec Ferris qui lui vient de l'Alsace,
et Strasbourg.
Donc vous avez pu comme ça un petit peu
complètement
poser vos cailloux
exactement.
Sur le territoire.
Donc là on va ouvrir nos prochains locaux à Strasbourg. Donc ça va être à la rentrée 2026, donc important pour nous d'être dans le fief de Ferris et on a un tel vivier de pépites, toutes nos formatrices et formateurs de Strasbourg, ils sont incroyables.
Mais ils ont quel âge?
Ils ont entre 19 et 25 ans et avec aussi un collectif de mamans hyper engagées, Soraya, Samira, toutes ces mamans qui s'investissent et là la maire de Strasbourg va nous permettre justement de nous installer et de pouvoir justement déployer et développer un gros projet parental avec les jeunes et qu'on ouvrira très prochainement en 2026.
Sana Saïtouli, quand vous justement vous proposez aux mamans de faire du vélo, hein, et de faire un parcours, qui était-il d'ailleurs ce parcours?
Alors c'était le Saint-Ouen Strasbourg à vélo.
Ah, quand même.
Ouais, on était une trentaine, donc c'était des jeunes formateurs de Banlieue Climat, c'était et des formatrices, c'était des mamans, c'était leurs enfants. En fait, le périple est du coup coordonné par un professionnel qui est Jean-Louis Lotouzé. Sans lui, on n'aurait jamais pu porter ce projet-là.
Et c'est quoi l'idée?
Et l'idée, c'était de comment on pouvait sillonner une partie de la France à vélo, avec des mamans, des jeunes, et de pouvoir porter un plaidoyer sur la qualité de l'air. Donc on a travaillé sur un manifeste en amont avec l'association Respire, avec Tony Renucci, que je remercie d'ailleurs, parce qu'on a passé un temps fou à réaliser justement ce manifeste, et de pouvoir justement aller embarquer toute personne qu'on pouvait rencontrer dans le cadre de notre périple. Donc on s'est arrêté dans certains villages, etc. C'était incroyable, et pendant un an, les mamans ont surmonté sur leur vélo, parce que ça faisait plus de 30 ans qu'elles n'avaient pas fait de vélo, ou d'autres qui ne savaient pas du tout faire de vélo. Et donc, du coup, ce périple a été une histoire et une aventure incroyable. D'ailleurs, il y a un petit documentaire qu'on va présenter en janvier dans un petit cinéma pour parler de mobilité, d'accessibilité. Et c'est ce qui va permettre aussi d'enclencher aussi l'étape 3, la troisième édition en 2026 de ce périple.
Alors, certaines de ces mamans, vous les avez emmenées avec vous au Brésil.
Oui.
Alors, c'était dans le contexte de la COP30, mais en l'occurrence, ce n'était pas à Belém que ces mamans étaient avec vous, hein, mais à l'extérieur, en
Exactement.
Fait.
Exactement. En Amazonie, on était à Rio Branco. On est parti un peu pour mieux comprendre un peu des étapes de fabrication d'une chaussure éthique. Et ce qui était hyper intéressant, c'était comment on pouvait sortir du local pour aller un peu voir un autre environnement, de rencontrer des communautés, de voir comment on pouvait extraire des matières naturelles, enfin d'avoir la source. Et c'était juste une aventure humaine, c'était une aventure incroyable entre les jeunes formatrices et formateurs de Banlieue Climat, les mamans, toute l'équipe qui nous a accompagnés, qui nous ont permis de partir, et aussi les communautés de Seringueros qui étaient là-bas, qui sont toutes ces personnes qui travaillent en Amazonie pour extraire ces matières-là, et aussi de faire des choses qu'on n'a jamais pu faire. On a planté des arbres qui, dans quelques années, vont nous permettre encore mieux de respirer. Et tout ça, c'est un lien clairement avec le combat qu'on porte, notamment sur la qualité de l'air.
Mais ça, c'est des symboles, évidemment.
C'est des symboles
forts. C'est pas comme ça que vous changerez le monde, mais...
C'est pas comme ça qu'on changera le monde, mais en tout cas, on y contribuera. On fait notre part aussi. Mais c'est surtout, ça nous permet, en tout cas, de passer de la théorie à de la pratique et de revenir avec, justement, une bouffée d'air, hein, c'est le cas de le dire, et de se dire, mais waouh, on ne peut pas laisser l'humanité s'effondrer comme ça, et le fait de partir et de revenir avec cette énergie, on est tous revenus transformés et chamboulés.
Alors évidemment, il peut toujours y avoir la critique de dire, mais pourquoi vous emmenez des mamans prendre l'avion pour traverser l'Atlantique,
oui,
aller
oui.
au Brésil pour parler justement du climat, ça paraît un peu paradoxal.
Pour certaines, c'était la première fois, et c'est vrai qu'on n'ira pas nous accabler, on nous a sorti à chaque fois des réflexions comme celle-ci, mais franchement, je ferme les oreilles parce que, alors, on est tous sauf ceux qui contribuons justement à creuser un peu tout ça, donc... avec fierté d'avoir amené toutes ces mamans et ces jeunes.
La COP30, comment ça s'est passé? Parce qu'avec Chérise Barkat, vous
ouais.
étiez avant la COP30, donc la grande conférence sur le climat.
Exactement.
Comment vous l'avez vécu?
Alors, c'était une première pour nous. Alors, avec Chérise, on ne savait pas trop où on allait. Mais en tout cas, on était très curieux. Tout de suite, du coup, on a vite observé que notre place allait être avec celles et ceux qu'on ne voulait pas entendre. Donc, en arrivant avec nos valises, on a rencontré Anna Peris, qui est une indigène, qui, elle, n'avait pas d'accréditation et qui voulait juste être entendue et pouvoir apporter son rapport sur sa communauté à la MAPA, qui est entre la Guyane française et Belém, qui lutte contre la déforestation, qui lutte pour la santé, l'éducation et pour la reconnaissance de la médecine douce, etc. Et lorsqu'on a rencontré cette femme qui était dévastée et que personne ne voulait entendre, du coup, Ferris, spontanément, c'est lui qui l'a vu le premier, ben, on s'est dit que c'était là notre rôle au sein de cette COP, au-delà d'aller pavaner dans les stands et aller dans l'espace green, machin, zone bleue, zone verte, etc. C'était d'être avec ceux et celles qui nous ressemblent, parce qu'entre enfants d'indigènes et les indigènes, on s'est dit finalement notre place est là, et notre combat a été de faire en sorte qu'elles soient entendues. On a permis à Anna Peris de rencontrer Christiane Taubira, Laurence Toubiana, et de pouvoir poser un constat. Alors, je ne sais pas si ça va transformer ou chambouler, mais peut-être que notre rôle sur cette COP était de créer du lien, le trait d'union, et ça, je pense qu'on a réussi notre pari là-dessus.
Laurence Toubiana, qui a préfacé votre livre Enraciné, et qui sera d'ailleurs à votre place ce lundi, parce que ce sera la journée mondiale pour le climat.
Et qui est la marraine de Banlieue Climat, et moi, si je peux dire un dernier mot sur Laurence Toubiana, qui est celle qui, lorsque je lui avais envoyé une petite lettre, qui a accepté d'être la marraine et qui aujourd'hui tient son rôle à cœur et qui nous permet d'avancer sur nos sujets.
Et qui a joué un rôle majeur, en particulier à l'occasion de la COP21 et de l'accord de Paris. Et vous serez ce soir au Mureau, justement, pour la signature de votre livre à 18h à la librairie
Optimo.
Le petit mot.
Voilà, organisé par l'association ACESU Maïmounatala. On y sera, ne t'inquiète pas, j'arrive dans pas longtemps.
Elle sera à l'heure.
Merci
là. Beaucoup, Sana Saïtouli, d'être venue au micro de La Terre au Carré. Merci beaucoup
merci
à vous.
Merci à toi, Mathieu.